Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Här är det snårigt.
Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son. Feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Bourges.
Eller andra och levat livet tills jag krossades en dag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949. Aujourd'hui, Stella Cadente nous présente les Dames du Scorpion.
Les Dames du Scorpion, premier décan du 21 octobre au 31. Une grande cantatrice, une contralto, me confiait un jour: je chante pour me connaître moi-même. Plus ma voix vient de mon ventre et me déchire les reins, plus il me semble que je me délivre d'un secret qui est en moi-même. On voit sur les routes en auto de vieux saules dont le bois, à force de vieillesse, est ouvert. Je les envie. Je voudrais qu'une hache m'ait fendu la poitrine pour que je me voie enfin moi-même et que les autres me voient. On dit que je suis cruelle. Oh, c'est bien possible, monsieur. Le monde m'importune. Je voudrais qu'on me laissasse seule pour que je me sente moi-même et que je me trouve. Qu'a-t-on à dire de moi? Est-ce que je n'ai pas toujours été scrupuleusement honnête, délicate même? Ah, ma voix, monsieur, elle me sert à désirer le reste. Quel reste, dites-vous? Mais la haine des hommes! L'amour dont aucun homme n'est digne, de toute cette force, ma force qui brouille tout, voilà la clarté de mon jugement et le sort de ces fameux mots célèbres qui m'ont fait tant d'ennemis. Car j'en ai des ennemis. Ah oui, monsieur. Je regrette de n'avoir pas été un homme. Il me semble que j'aurais fait de grandes études, j'aurais voulu pénétrer les secrets de la nature et des gens. Cette femme était née à la fin d'octobre. D'autres femmes de cette époque, qui n'ont pas l'art de se délivrer de leur inquiétude sur elles-mêmes, se jettent dans des aventures amoureuses pathétiques, d'autres dans l'ambition où l'opiniâtreté et leur prudence les servent. Les dames du troisième décan, du 11 au 21 novembre. Avec le troisième décan du scorpion, nous retrouvons les ardeurs de ce signe. Ô rouge scorpion, martyr de toi-même, tu n'es plus ici la grande cantatrice, ni la femme fatale mystérieuse. Voici une malheureuse asservie par l'amour. Sa voix rauque n'est pas lasse, c'est une voix effrayée par sa propre douleur, une voix de vaincue bien vivante et bien forte. L'homme qu'elle suit, qu'elle adore, qu'elle imite parce qu'elle l'admire, est un grand médecin qui a d'abord été son maître. elle le sert comme une esclave. Elle transforme sa propre personnalité, ses goûts propres pour lui plaire. Elle sent profondément combien elle est indigne d'un seul regard de lui. Trop heureuse qu'il accepte sa présence. Cet homme n'a qu'un rival en son cœur. C'est son désir de connaître la nature des choses, de connaître aussi les mystères du ciel. Cette brisée de passion est une grande savante. À qui s'en douterait avoir cette pauvresse habillée à la diable et qui ne retrouve les apparences de la dignité que dans sa parole devant ses élèves, car elle a des élèves, fascinés par son regard noir. Alors elle est sublime, forte et fière, elle n'aura jamais la célébrité, non. Quoiqu'elle soit habile, elle l'est même tout à fait, mais elle ne pense pas à la gloire tout entière à ses deux amours, cet homme et la science. Et puis, elle n'a aucune relation. Une dame étant venue la visiter dans son laboratoire, lui a demandé « Mademoiselle X, où est-ce ?»« C'est moi, madame. » Mademoiselle X, grande savante, avait les pieds nus dans des savates et pas de chemise sous sa blouse. La dame a fait une mine si déconvenue que Mademoiselle X a éclaté d'un rire rauque et sarcastique et lui a insolemment tourné le dos. Vous reconnaissez, n'est-ce pas, le scorpion dans ce genre brutal et moqueur. Mademoiselle X ne connaît que ses deux amours. Les confrères admirent la beauté de sa vie et ignorent le cancer qui la tue, cet amour sauvage et muet. Tout de même, vers la quarantaine, il a bien fallu accepter des hommes et de l'argent. Elle s'est laissée donner une chaire à l'école X parce que son maître l'a exigée et qu'elle obéit à son maître. Mais ayant été témoin de certains marchandages peu délicats, elle a, par un coup de tête réfléchi, donné sa démission. Et cela, le maître n'a pu l'empêcher. On l'a traité de folle, on a ri de ce qu'on a appelé son orgueil. Or, il n'y a pas le moindre orgueil en elle, mais au contraire une humilité qui n'a d'égal que son idéalisme. Elle vit en plein ciel, et ce ciel est un enfer. Voilà le scorpion du son de troisième des camps, le scorpion terrible et souffrant, le scorpion bourreau de soi-même et poursuivi par le malheur qui l'appelle. Le maître, devenu maladif, se décide enfin à épouser son élève. L'élève soigna le mari avec un dévouement de sainte. Il mourut, la laissant écrasée de devoirs à remplir, de dettes à payer et de manuscrits à démêler. Toute sa vie ne fut plus consacrée qu'à la mémoire sacrée du maître. On l'a trouvée morte 15 ans après une nuit, la tête sur une page chiffrée du maître. La légende qui court à la Sorbonne à son sujet dit qu'on vit sur son corps une ceinture de fer munie de clous pointus. Bien entendu, je ne crois pas à ces barbaries renouvelées du Moyen-Âge. Sa gloire aujourd'hui est très grande. Je ne puis pas dire son nom, mais soyez persuadés que cette esquisse de roman est de l'histoire. L'histoire du scorpion, femme du troisième des camps.
doesn't seem to be anybody else who agrees with me.
Suivant dans l'état d'esprit du mois dernier, nous découvrons dans le cabinet de curiosité un article intitulé « Les dessous de Paris » publié dans le journal La Lanterne le 5 février 1878. Nous en lisons quelques extraits. La morgue, voilà un mot bien connu du Parisien. Cette funèbre maison dont les dalles, si elles pouvaient parler, raconterait tant d'horribles choses dont les registres sont les annales mêmes du crime et de la misère à Paris, attire comme par une force irrésistible quiconque passe devant elle. Je crois que peu d'entre les Parisiens ont résisté à la curiosité malsaine qui pousse à franchir le seuil de ce temple du désespoir. J'ai souvent passé de longues heures à étudier la foule qui sans cesse se presse devant les vitres de ce musée des suicidés et des assassinés. Et je dois déclarer que les femmes, et surtout les jeunes filles, y sont en grande majorité. J'ai vu des fillettes de 16 ans, ça la queue devant, de longues heures, pour arriver à pénétrer devant la morgue, et quand elles arrivaient enfin devant cette horrible vitrine, leurs yeux semblaient dévorer ce hideux spectacle de cadavres verdâtres et grimaçants. Cette curiosité, que les moralistes qualifient à bon endroit de malsaine, a pourtant un résultat pratique. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui 9 cadavres sur 10 sont reconnus par la famille. Tandis qu'en 1830, c'était à peine si on parvenait à retrouver l'identité de 4 sur 10. Et on arrive ainsi à découvrir souvent bien des crimes qui, sans une prompte reconnaissance des victimes, resteraient impunis. La morgue est une des plus vieilles institutions parisiennes. Elle date de 1604. Quant à l'origine de son nom, voici ce que dit Ménage. Ce mot vient de morgue, visage. De là, on a appelé morgue le deuxième guichet du Châtelet, où l'on tient quelque temps ceux qui entrent en prison afin que les guichetiers les reconnaissent bien. De là, on appelle morgue un endroit du Grand Châtelet à Paris, où les corps morts dont la justice se saisit sont exposés à la vue du public afin qu'on puisse les reconnaître. Le premier cadavre apporté à la morgue, dont les chroniques fassent mention, est celui d'une victime de cartouche nommée Jean Labattie. Cet individu, qui était un complice du célèbre bandit, mais dont ce dernier se méfiait, fut attiré par Cartouche dans un enclos désert derrière le couvent des Cordeliers, frappé d'un coup d'épée et ensuite hideusement mutilé. On trouve ainsi dans quelques vieilles gazettes de 1741 une assez curieuse histoire où il est question de la morgue. Un jour, on trouva dans le coche d'eau de Fontainebleau un cercueil contenant le cadavre d'un jeune homme admirablement conservé. Immédiatement, on le porta au Grand Châtelet, et toute la police fut sur pied pour retrouver les auteurs du crime. Mais quelle ne fut pas, le lendemain, la stupéfaction du lieutenant de police, quand il vit un savant anglais venir lui réclamer le cadavre en question, qui n'était qu'une simple momie. Tout Paris se moqua fort du commissaire qui avait saisi la momie et se nommait De Rochebrune. Le 31 juillet 1830, on vit un bateau portant à l'arrière un drapeau noir s'arrêter devant le quai du marché neuf. On y descendit 125 cadavres et il repartit pour le champ de Mars où ils furent enterrés. L'insurrection de 1832 amena encore 78 cadavres dans la funèbre maison. La catastrophe qui se produisit au champ de Mars le 14 juin 1832, lors du mariage du duc d'Orléans, y fit porter 22 cadavres. Les registres de la morgue racontent qu'il s'en trouvait un horriblement mutilé et dont les poches contenaient 18 bourses, 12 montres et un poignard. En 1839, on reconnut sur ses dalles le cadavre d'un suicidé pour être celui d'un héros des Trois Glorieuses. Ce malheureux, nommé Jean Fournier, avait en 1830 arboré sur les tours de Notre-Dame le premier drapeau tricolore qui, depuis 1814, avait flotté sur Paris. Sans travail et sans pain, il est fini un soir par se jeter à la Seine. Le gamin de Paris, qui est l'habitué de la morgue, appelle les cadavres les artistes. Et quand il n'y a personne sur les dalles, il dit qu'il y a relâche. Mais il est bien rare qu'il y ait relâche. La Seine est la grande pourvoyeuse de la morgue. Il est toujours plus facile de se jeter à l'eau que de s'empoisonner ou de s'asphyxier. La plupart du temps, le suicide ne se produit que dans un moment d'exaltation, toute spontanée. Cette exaltation se calme pendant les préparatifs nécessaires soit à un empoisonnement, soit à une asphyxie. La réflexion revient et l'on se reprend à espérer. On se pend aussi fort peu à Paris. Il n'y eut guère qu'un moment, vers la fin de l'Empire, où la morgue reçut un assez grand nombre de pendus. En voici la raison. Certains journaux avaient longuement parlé de la secte américaine des pendus, sorte d'hallucinés qui prétendaient que la pendaison est le summum des jouissances terrestres et qui se pendaient fréquemment en ayant bien soin de faire couper la corde avant que mort s'en suive. On parla donc beaucoup à cette époque des jouissances de la pendaison et certains désespérés se pendirent croyant ainsi avoir trouvé un moyen assez agréable de quitter cette vie. Les quartiers pauvres sont ceux qui fournissent le plus de cadavres à la morgue. Les deux quartiers qui, presque chaque année, viennent en dernière ligne sur cette funèbre statistique, qui sont les quartiers de Passy et de la Chaussée-d'Antin, peuplés en grande majorité de gens riches et de rentiers. Ce qui prouve que la morgue n'est pas une des parties les moins importantes de la question sociale.
Rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux murs. Protège les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont dures aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Et c'est maintenant l'heure de retrouver Marc Mercier et le bulletin d'écoute d'Armand Robin.
Mars 1958, bulletin numéro 20. Asie, suite, Chine, le bonheur d'être Ouïghour. Source, Radio Pékin, en chinois, anglais et espagnol. La radio de Pékin est revenue ces trois derniers soirs sur les félicités apportées par le régime à la région autonome Ouïghour du Xinjiang oriental. Selon ses émissions, ces félicités consistent essentiellement en ceci. Les Ouïghours ne connaissent pas leur malheur. Vivaient à l'état nomade en de vastes espaces. Ils ignoraient les ressources du sous-sol, notamment en charbon. Leur bonheur va être de devenir mineur de fond. La radio de Pékin parle beaucoup en ce moment de la route dénommée Route de la Félicité, reliant Gartok au Tibet, d'une part, à Lhasa, d'autre part, au Xinjiang. C'est la route la plus haute du monde. Ce qui est certainement vrai, car pour aller de Gartok à l'ouest de Xinjiang, directement, il faut passer par des sommets de 6000 mètres. Le détail donné est fort curieux. Car enfin, si cette route, stratégique de toute évidence, était destinée à se défendre contre l'Occident, elle n'emprunterait pas ce tracé. L'intérêt économique de cette route ainsi tracée est nul. Il ne peut s'agir que d'une mesure à longue échéance, prise par la Chine face à la Russie en vue d'une défense des limitations de frontières à venir dans cette partie fort mystérieuse du monde. Très abondante propagande en faveur de la conférence au plus haut niveau qui, dans le service de Pékin en espagnol, finit par être appelée « conférence de hauteur », des « alturas ». Le mérite de la radio de Pékin, à cause de sa campagne constante contre les impérialistes américains, est de dire tout net que les radios de la centrale de Moscou disent, avec beaucoup plus de verbiage, à la guimauve. L'URSS veut la conférence au sommet le plus rapidement possible, tandis que les États-Unis veulent tarder le plus possible. Un détail. La même rubrique est intitulée par Radio Pékin en espagnol « La Chine construit le socialisme ». En anglais, « La Chine en construction ». En chinois, les Chinois construisent. 26-28 mars 1958, bulletin numéro 24. Notes diverses. Suite. Radio Lisboa, service ultramarin. En urdu hindi, puis en anglais, a pratiquement cessé de diffuser des textes destinés à soutenir les Goans contre les hindous. Lisbonne diffuse avant tout, dans la proportion de 4/5 dans les bulletins écoutés en ce début de semaine, de la musique traditionnelle portugaise, très chaude, presque sensuelle. L'auditeur a le sentiment physique d'un lien quasi charnel entre la métropole portugaise et les Goans. Le même phénomène est à noter quand le Portugal s'adresse aux habitants de l'Angola ou de Mozambique. Mais là, du moins à ma connaissance, il n'y a pas de service radiophonique spécial. Parmi les informations et commentaires ajoutés ensuite à cette communion charnelle sous forme de chansons sensuelles, notons en ce moment l'insistance sur le sujet. L'Union indienne a le plus grand mal à créer une nation indienne. Il n'y a plus d'expression mordante et très dure comme l'an dernier et il y a 2 ans, mais une ironie étalée de la commisération polie. Tous les textes revenant à suggérer que l'union hindoue actuelle n'est pas capable de créer un État, que les Goans le regrettent beaucoup pour leurs voisins hindous. Ces Portugais ont décidément beaucoup d'esprit sur le plan international. Première minute. Jeudi 15h. Service de Lisbonne en anglais pour les Goans en dehors de Goa. De la musique allègre, voluptueuse, puis un texte à l'adresse des hindous. Texte d'apparence toute douce, mais qui dit avec une ironie féroce ce que l'Inde a voulu faire au sujet du territoire de Goa est l'exemple de ce qu'il faut éviter de faire si l'Union hindoue veut parvenir à créer une unité hindoue, etc. Thème des difficultés intérieures hindoues, avec longue énumération. C'est tout juste si cette émission ne propose pas les bons offices des sages portugais aux écervelés hindous pour aider ces derniers à résoudre les problèmes intérieurs de l'Inde. Rappelons que l'émission est destinée surtout aux Goans vivant à Bombay.
Vous pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève. Vous avez entendu par ordre d'apparition Monica Zeterlund, Stella Cadente accompagnée par Bill Evans, Pomplamousse, Claude Debussy, Cora Vauquer, Marc Mercier et, en ce moment même, l'ensemble de Sergio Mendes. Cela a été un vrai bonheur de vous savoir avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.